C'est une caméra 16 mm Bolex, made in Switzerland encore à l'époque. C'était fabriqué à Yverdon-les-Bains avec un objectif Kern, qui est aussi un objectif suisse, mais qui était fabriqué en Suisse allemande, qui fonctionne toujours parce qu'elle est sans pile, en fait sans batterie.
Elle date de quand ?
Bon, celle-là, elle doit dater des années 40, 45, mais ça a été construit jusqu'en 1970, le même modèle.
Vous dites celle-là, vous êtes collectionneur ou vous n'avez que celle-ci ?
Non, pas du tout, mais c'est pas celle, ce modèle-là, c'est pas celle que j'ai utilisée autrefois, quand je faisais du cinéma, mais c'est un ami qui me l'a offert, alors c'est pour ça que j'estime l'année à peu près, quoi.
Vous êtes un amateur de, on va dire, de caméras, on l'a compris, hein, vous êtes passionné de cinéma, vous collectionnez ces caméras, des vieux appareils photo ?
Non, pas tellement, enfin, je collectionne plutôt les objets que j'ai utilisés dans ma carrière professionnelle de photographe et puis de vidéaste ou de cinéaste.
Et la question, aujourd'hui avec une telle caméra, est-ce qu'on peut faire un bon film ?
Tout à fait, donc on peut tout à fait filmer, c'est de la qualité au moins de... Bon, presque de la HD TV, hein, au niveau image, quoi, à condition de ne pas agrandir trop le format. Mais si vous regardez ça sur un écran de la taille d'un écran de télévision normal à la maison, ben c'est la qualité à peu près de la HD, disons, de la HD qu'on trouve pour les particuliers, disons. Hein.
René Saslavski, est-ce que vous filmez encore, est-ce que vous faites encore des films, de la photo ?
Tout à fait, donc je suis photographe de métier et puis je continue de faire des films. Bon, actuellement je travaille avec évidemment de la Full HD en vidéo, hein, bien sûr, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'attendre que le laboratoire vous développe la pellicule pour regarder si c'est net, si ça a marché, etc.
Notre invité jusqu'à 8h, René Saslavski, intervenant chez Addiction Jura. On parle de la journée nationale sur les problèmes liés à l'alcool, c'est aujourd'hui.
La matinale RFJ. L'invité pas pressé.
René Saslavski, l'accent de cette journée est mis sur les liens entre le stress et l'alcoolisme. Est-ce qu'il y a vraiment des liens directs alors ?
Disons que c'est pas entre le stress et l'alcoolisme, c'est entre le stress et l'alcool. Mmh. Donc il y a des liens qui peuvent exister dans la mesure où assez souvent une personne qui est stressée va se dire « je bois un verre pour me détendre ». Et très très souvent ça pose pas de problème, ça va très bien. Mais parfois, si ça devient une habitude, ça peut poser des problèmes. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a des liens.
Ça veut dire qu'au niveau scientifique, il n'y a pas de lien, on va dire, établi entre le stress et puis la consommation d'alcool.
Alors au niveau scientifique, il y a des études qui démontrent ça. Mais comme toujours, ce qui est très important à savoir, c'est que c'est toujours plus compliqué que le stress, l'alcool. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Et puis parmi ces autres facteurs, y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, des personnes qui sont plus stressées que d'autres, et donc ça peut poser des problèmes. D'un autre côté, scientifiquement, il est aussi démontré que l'alcool en soi peut générer du stress. Et donc à ce moment-là, ça devient très compliqué parce qu'on essaye d'utiliser en automédication quelque chose qui va faire l'effet contraire quand on le consomme, quoi.
Est-ce que pour des personnes qui ont déjà des problèmes d'alcool et qui ont arrêté, est-ce que le stress peut provoquer une rechute ?
Ça peut arriver parfois, oui. Donc ça fait aussi partie des études qui ont été établies actuellement. C'est-à-dire que ça peut être un facteur de rechute. D'autant plus que ça peut nous mettre dans une situation qui est stressante en soi par rapport à la conduite automobile ou un accident ou des conséquences qu'il peut y avoir derrière un accident. Qui pourraient être liés à l'alcool et puis qui vont générer encore plus de stress, si on veut.
Alors on l'a dit, les liens entre alcool et stress ne sont pas forcément évidents. Pourquoi est-ce que c'est quand même important aujourd'hui de faire de la prévention dans ce domaine ?
Alors c'est la journée alcool, et puis la journée alcool donne au niveau national un thème, et cette année ce thème c'est le stress et l'alcool. Et une question, est-ce que c'est un cercle vicieux ? Donc ça reste une question au niveau du thème. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé dans le Jura de proposer plutôt des outils pour voir l'état du stress dans lequel on peut être et aussi d'autres possibilités d'échapper au stress, des possibilités différentes.
Cette prévention, elle s'adresse à qui alors exactement ?
Alors elle s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, aujourd'hui,
de
les passants
âge.
Dans la rue, de tout âge, absolument. Parce que dans les études qui ressortent, On entend que des étudiants, des jeunes peuvent être stressés par la pression qui peut leur être mise par les parents ou par l'école, etc. Et puis on entend aussi que des personnes âgées sont stressées parce que la vie d'aujourd'hui est compliquée, qu'il y a des nouveaux objets qu'on ne sait pas utiliser, etc. Donc ça peut s'adresser vraiment à tout le monde.
Et vous avez des conseils pour maîtriser ce stress? Qu'est-ce qu'il est important de savoir si on ne veut pas utiliser la boisson comme remède à un stress?
Bon, d'abord, il faut d'abord savoir ce que c'est que le stress un petit peu. Et puis donc, on va proposer aujourd'hui une petite grille d'analyse qui permet de savoir est-ce que je suis stressé et à quel niveau je suis stressé. Donc c'est une série de points posés avec des nombres qu'on attribue. C'est une petite feuille comme ça. Et puis on fait un total. Puis avec ce total de points, on se dit, ben tiens, je suis stressé, mais pas trop. Parce que bon, si on n'est pas stressé du tout, ça ne va pas non plus. Hein. Donc il faut qu'on soit quand même un peu stressé, un peu vivant. Quoi. Sinon, on est amorphe et puis ça ne joue pas. Quoi. Et puis, donc ça permet d'avoir cette petite grille, trois points, si vous voulez. Un stress normal qui ne pose pas de problème, un stress légèrement problématique, ou un stress plus problématique. Après, on sait, bon, est-ce qu'il faut que je fasse particulièrement attention, ou bien pas, ou je peux fonctionner normalement. Quoi.
Bon, il y a aussi des personnes qui ont peut-être le point 3, un stress problématique, et qu'ils arrivent à gérer en faisant du sport, par exemple.
Tout à fait, donc ça, c'est des propositions qu'on va donner aujourd'hui, c'est-à-dire, justement, on va proposer une série d'activités particulières qu'on peut utiliser pour déstresser.
Alors justement, René Zaslavski, ces activités dans le cadre de la Journée nationale sur les problèmes liés à l'alcool dans le Jura, elles sont où et puis elles sont quand?
Alors donc, on sera présent en ville de Lémont depuis 10h ce matin jusqu'à 19h dans la rue. Donc les intervenants vont aller au-devant des passants, des passantes, pour leur proposer ces différentes activités. On sera présent aussi à Seignelagier dans l'après-midi, aussi en ville, et puis à Porrentruy depuis 11h, aussi en ville. Quoi. Jusqu'à 19h, peut-être un petit peu plus tard, ça dépend. Un peu de la météo et puis du nombre de personnes en ville. Quoi.
La matinale RFJ, invité.
René Zaslavski, avant de faire de la prévention dans les addictions, vous êtes intéressé à l'image, on l'a dit, vous êtes photographe de formation. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'image?
Ben, disons que c'est une manière de cadrer le monde, quoi. D'arrêter le temps. Donc il y a ces deux aspects.
Même quand on fait justement, par exemple, de la vidéo, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de prendre du recul, c'est ça?
Ben oui, ça, disons que pour filmer quelque chose, on doit d'abord observer, savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va filmer, etc. Donc c'est un moyen d'analyser le monde qui nous entoure. Et puis ensuite, ça garde une trace qui va être fixé dans le temps et puis qu'on peut regarder par la suite en se disant, bah tiens, c'était comme ça quand j'ai fait ce travail-là, etc. Donc ça garde quelque chose dans la mémoire. Et puis ça permet aussi de distancer ensuite, puis de regarder qu'est-ce qu'on a gardé et de se dire, bah tiens, le monde a changé, pas changé, ça va mieux, ça va moins bien, enfin, ce genre d'aspect, quoi.
Quelle est la photographie qui vous intéresse, justement, plutôt documentaire?
Moi, j'aime bien photographier le monde qui m'entoure, et effectivement, c'est difficile de résister. Par exemple, ici, dans le studio, quand je vous vois en face, de l'autre côté de la vitre, je me dis, bah tiens, il y a une photo à faire ici, quoi. Pour regarder ce moment un peu particulier.
Il y a aussi, vous faites aussi des photos pour vous, par exemple, un album photo, quelque chose que vous ne voulez pas publier ensuite?
Tout à fait, donc je fais pas mal de photos pour moi, quand je me promène dans la rue, quand je prends le train ou même en voiture, bah, faut s'arrêter évidemment parce que sinon c'est dangereux.
Vous avez toujours un appareil sur vous?
Bah, avec les nouveaux téléphones portables qui font des photos, hein, c'est difficile d'échapper à un appareil sur soi. Hein.
Le photographe, c'est celui qui maîtrise la technique ou c'est celui qui maîtrise ce que raconte l'image? Parce que vous faites aussi, vous êtes photographe de formation, mais vous faites aussi des images avec un iPhone par exemple.
Tout à fait. Bon, la technique, c'est toujours qu'un média, qu'un outil au service d'une personne. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Je veux dire, ça permet, un appareil dans un téléphone, ça permet de l'avoir sur soi en permanence, disons plus facilement que l'objet que j'ai amené, qui pèse 3 kilos, hein, bien sûr. Mais non, ce qui est important, c'est l'œil du photographe. Et puis, ce qu'il a envie de regarder, puis où on pose le cadre, et puis ce qu'il y a dans le champ, c'est-à-dire ce qu'on a cadré, ce qu'il y a dans le hors-champ, même si avec les techniques d'aujourd'hui, par exemple, on peut reprendre derrière un cadre, le resserrer, le refaire. Mais il y a quand même quelque chose qui est dans le hors-champ quand on a pris la photo, quoi. Donc on a choisi un angle particulier. Donc c'est une manière de voir le monde particulière. C'est ça qui est important.
Et vous êtes aussi un grand cinéphile, vous aimez le ciné-club au Locle, et puis vous avez créé une entreprise de création de films et de documentaires à la Chaux-de-Fonds. Quel genre de documentaire vous réalisez ?
Alors bon, ça c'est dans le passé. Hein. Donc dans le passé, j'avais créé avec des amis une société de production de films.
Elle n'existe plus ?
Alors elle existe toujours, mais sans moi.
Ah d'accord.
Voilà. Et l'idée c'était de faire plutôt des documentaires, de jamais faire de publicité, et de faire... Bon, ce qu'on a fait essentiellement, c'était des portraits d'artistes et d'autres films de fiction personnelle aussi, à l'époque.
Pas forcément en lien avec les addictions, justement.
Non, ben, disons que c'est par ce biais-là que je suis entré dans le monde des addictions, dans la mesure où un jour, quelqu'un est débarqué en disant, voilà, j'aimerais faire un film avec des personnes dépendantes, des toxicos. Et puis, mais j'aimerais que ce soit eux qui fassent le film, et puis pas que ce soit une vision de l'extérieur sur eux, que ce soit eux qui le fassent. Et puis c'était, pour moi, c'était quelque chose d'intéressant, un challenge intéressant. Et puis je me suis dit, ben tiens, on va essayer de faire ça. Puis je suis arrivé avec tous mes a priori sur ces personnes, etc. Et puis ça a volé en éclats en faisant le travail. J'ai découvert que c'était des personnes, et puis pas des toxicos. C'était donc des personnes qui avaient un problème, mais c'était pas une caractéristique de ces personnes d'être dépendants. Et c'était vraiment très enrichissant pour moi. Et puis ensuite, ben, on était à ce moment-là au tout début de la prise en charge de ces questions, hein, c'était dans les années 80, et donc il n'y avait pas de technique utilisée, etc. Donc pour la prévention, on a décidé de développer toute une série d'approches avec l'image. Bon, on est passé à la vidéo assez rapidement, parce que les cassettes vidéo VHS sont arrivées à ce moment-là. Et ça permettait d'être un peu moins lourd qu'en film, qu'en pellicule. Et puis, bon, petit à petit, ben, c'est par ce biais-là que je suis devenu intervenant en addiction.
Donc, ça vous aide énormément dans le travail que vous faites maintenant, avec justement dans cette prévention, d'avoir l'œil du photographe derrière.
Bon, de toute façon, hein, ça permet d'avoir un œil particulier sur le monde. Puis c'est important d'avoir cet œil-là, cet angle-là, aujourd'hui, pour réussir à considérer que les personnes dépendantes, c'est d'abord des citoyens.
L'œil aussi du photographe, l'œil du cinéaste, l'œil du vidéophile, ça aide quand on fait de la prévention et quand on fait de la communication, justement.
Moi, je pense, oui, que ça, ce qui est important, c'est d'avoir un regard original sur le monde, et puis de distancer, et puis pas de vouloir aller trop vite aux choses, et puis de réfléchir, etc.